L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission quotidienne, l'AJT du local. Bonjour Claire.
Et bonjour Marie, bonjour tout le monde, c'est lundi et je suis à Château-Gontier et ça fait très très plaisir.
Tellement contente que je parle très fort dans le micro, mais bon, ça s'entend. Merci Claire en tout cas d'être avec nous pour cette nouvelle émission. Nous sommes donc le lundi 18 janvier et aujourd'hui on va parler de la culture qui, vous le savez, n'est pas totalement à l'arrêt puisque le comédien Pierre Bonneau était en résidence la semaine dernière à Laval, à la SCOMAM. Nous allons découvrir un petit peu le spectacle qu'il prépare et puis sa vision un peu de cette situation si particulière pour les acteurs culturels. On va parler aussi, Claire, justement, c'est une interview que tu as faite sur le Dry January. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Et oui, c'est le défi du mois de janvier pour arrêter ou en tout cas se poser la question de la réduction de sa consommation d'alcool. Donc hyper intéressant.
Et donc on va découvrir en milieu d'émission, et puis bien sûr, comme chaque lundi, le coup de cœur littérature d'Emily Ranjou à découvrir en fin d'émission.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, coup d'envoi des vaccinations aujourd'hui pour les plus de 75 ans.
Vous pouvez toujours prendre rendez-vous au 02 43 53 53 00 ou sur doctolib.fr. Pour les personnes de plus de 75 ans bénéficiaires de l'allocation personnalisée de l'autonomie, le conseil départemental de la Mayenne prend en charge 4 heures supplémentaires au titre de l'APA. Plus de 2000 personnes pourront ainsi être accompagnées par leur aide à domicile vers un centre de vaccination ouvert de 8h à 20h à la salle polyvalente de Laval, à l'espace Saint-Fiacre à Château-Gontier ou au pôle santé de Mayenne.
Un cas de Covid-19 avec variant sud-africain confirmé à Nantes.
Par le Centre national de référence des virus respiratoires, l'Agence régionale de santé a identifié autour de ce premier cas 12 personnes positives à la Covid-19 parmi la famille et l'entourage. On attend encore la confirmation du variant sud-africain pour ces personnes. Des dépistages complémentaires se poursuivent. Et un cas de Covid avec variant britannique a été détecté. En Sarthe, un couple résident en Angleterre est venu passer des vacances en famille dans la région du Mans. Les deux sont positifs, mais seul le mari aurait contracté le variant anglais de la Covid-19. 5 cas contacts familiaux ont été recensés, mais leurs résultats sont négatifs.
À Cossé-le-Vivien, une réunion d'information sur la vaccination.
Elle a lieu ce soir à 20h à la salle du FCC, donc à Cossé-le-Vivien, à l'initiative de la communauté de communes du pays de Cran et des médecins généralistes du pays de Cran. Cette réunion permettra d'évoquer l'organisation pratique de la vaccination contre la Covid des personnes âgées de plus de 75 ans et des personnes vulnérables.
Les centres de dépistage s'adaptent au couvre-feu.
Avec un changement d'horaire de 9h30 à 13h30 et de 15h à 18h cette semaine, et deux nouveaux lieux de dépistage, demain à Préampaille Saint-Sanson à la salle Benjamin Merchin et samedi à Goron au complexe sportif. Dépistage maintenu à Saint-Berthevin les lundis et mercredis, du jeudi au samedi à Laval et le jeudi à Château-Gontier à la Halle du Haut-Anjou.
Le couvre-feu contraint aussi les services publics à s'adapter.
À Château-Gontier, plusieurs services de la ville fermeront désormais à 17h30. L'hôtel de ville, la mairie annexe de Bazouges et les mairies déléguées de Saint-Fort et d'Azé. Les déchetteries accepteront un dernier accès à 17h15. L'école des sports est quant à elle suspendue, mais les horaires des accueils périscolaires restent les mêmes avec une fermeture à 19h.
Le centre hospitalier du Haut-Anjou va changer de directeur.
À partir du 1er juillet prochain, Patrick Placet va être remplacé par Éric Alban Giroux à la tête du centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier. Arrivé en septembre 2014, l'actuel directeur partira à la retraite cet été.
Appel à l'aide lancé à l'EHPAD de Javron-les-Chapelles.
Dans le Nord-Mayenne, l'EHPAD Marie Fano de la Haurie doit faire face à une vague de cas Covid au sein de son personnel. Plusieurs employés de l'établissement ont été testés positifs et placés à l'isolement. La municipalité cherche à recruter le plus rapidement possible sur des postes d'accompagnement de personnes âgées et médicaux. Si un poste vous intéresse, vous pouvez contacter directement la maison de retraite.
Retour aux 90 km/h validés sur les routes mayennaises.
Une partie du réseau routier mayennais va repasser de 80 à 90 km/h à partir du 1er février. La commission départementale de la sécurité routière a émis un avis favorable, à deux exceptions près, la route entre Ernée et Saint-Denis-de-Gâtine et l'axe Laval-Cran-Renazé. En revanche, sont concernées d'autres routes, notamment la D20 qui donc constitue l'axe entre Château-Gontier et Segré. La D22, c'est la route entre Château-Gontier et Cran, ou la D31 entre Laval, Ernée et Landivy.
250 manifestants contre la loi Sécurité globale à Laval.
Nouveau rassemblement ce samedi pour les opposants au projet de loi de sécurité globale en Mayenne. 250 manifestants donc se sont retrouvés place du 11 novembre à Laval. Et en plus des militants associatifs et politiques, une centaine de fêtards ont rejoint le mouvement samedi avec leurs camions et leurs sonos. Tous dénoncent un texte liberticide.
Et sur la route du Vendée Globe, Maxime Sorel, bientôt dans l'hémisphère nord.
À la 10e place, le skipper VNB Mayenne devrait bientôt rejoindre les 9 autres navigateurs qui, eux, ont déjà passé l'équateur. Charlie Dalin est toujours en tête, suivi de près par Louis Burton. Mais en fin de course, un nouvel abandon est à déplorer, celui de Sébastien Destremau, bon dernier, déjà fragilisé par des soucis avec son pilote automatique, sa quille et ses systèmes de barre. Et puis un mot de foot avec une nouvelle défaite pour le Stade Lavallois qui s'est incliné 2-1 à Avranches vendredi soir. Laval perd encore une place au classement de national et devient 8e.
Et Marie, une nouvelle résidence artistique à Laval.
Le comédien rennais Pierre Bonneau était toute la semaine à la SCOMAM à Laval donc pour travailler sur son nouveau spectacle, un seul en scène intitulé Que du bonheur. Il est d'ailleurs coécrit ce spectacle avec une psychologue mayonnaise Véronique Gendry, une première pour celui qui a déjà monté des spectacles en duo ou en trio, en tout cas en collectif, mais pas de seul en scène.
C'est un jeu particulier vu que j'interprète 7 personnages différents, donc il faut faire des incarnations très tranchées, des espèces de switch entre personnages avec chacun sa posture, sa mentalité, son phrasé, un seul en scène, c'est une idée que j'avais depuis longtemps en tête. Il faut déjà faire attention à aux tics de jeu qu'on peut avoir naturellement, qui vont brouiller les lignes. Chaque personnage doit avoir son rythme, sa carrure, son type de regard, son timbre de voix, son vocabulaire. Marie-Magdelaine, alias Magma, avec qui j'ai travaillé cette semaine, là, je la faisais beaucoup rire, parce que des fois, quand j'essayais de jouer des femmes, elle disait « Mais non, mais ce geste-là n'est absolument pas féminin. » Tu fais « Ah ouais, d'accord. » Par exemple, je me suis rendu compte, l'homme, quand il met la main sur la hanche, met la paume vers le bas, et les femmes, beaucoup plus naturellement, vont mettre la paume vers le haut. Et ce genre de petits détails dont on ne s'aperçoit pas et qui font les nuances, la façon de croiser les jambes, la façon de se tenir, le port, la façon de se ramasser une mèche derrière l'oreille. Donc à la fois, on peut avoir un père qui va être dans une tenue, dans un port de corps assez figé, avec un sourcil relevé et puis les mains dans le dos.
Et puis à la fois, on peut avoir Mimi, par exemple, qui va être beaucoup plus, qui va avoir un grain de voix beaucoup plus doux. Et puis tous les personnages... Mais c'est très très rigolo de les faire. C'est un spectacle aussi sur, dans le fond, traite de ce qu'on s'autorise à faire ou pas pour essayer d'être heureux. Alors ça passe par une interrogation de tous les liens au sein de la famille, l'amitié, l'amour. Essayer d'aller aussi bien vers le rire franc qu'à certains moments, la gorge qui se serre un peu, voir les larmes. D'explorer la colère, la tristesse, le doute, inspirer une rupture amoureuse, une incompréhension avec des proches, une relation conflictuelle avec les parents.
Vous l'aurez compris, tout le monde peut se reconnaître dans ce spectacle, dont la première devrait avoir lieu au mois de mars, si les théâtres rouvrent d'ici là. Mais Pierre Bonneau livre son regard un peu désabusé sur le secteur culturel.
Il n'est pas anéanti, mais il est bras ballants, hébété et furieux contre cette situation tellement paradoxale de voir des rassemblements dans les zones commerciales notamment, alors qu'il y a manifestement et très objectivement un savoir-faire qui a été développé et qui peut encore largement se faire développer pour accueillir un public mesuré dans des conditions raisonnées. Et que ces bulles de rêve, de parenthèse, d'inspiration, de révolte, de décontraction, de fête, de partage, elles manquent cruellement. Puis la culture, elle est comme aussi engourdie. Il va falloir ensuite qu'elle sorte de là, qu'elle relance la machine. Ça va être long, ça va être compliqué. On va perdre beaucoup de savoir-faire, de talent. Vu qu'on joue en rue, on a pu quand même jouer une quinzaine, vingtaine de dates cet été. Donc ça, c'était super bien. Puis là, depuis, ben, ça redémarre ou pas. Enfin, le fait d'avoir une démarche de création régulièrement des résidences, à titre personnel, hein, c'est mon fil conducteur, justement, qui dit, voilà, on ne travaille pas dans le vide. Et puis, il y a aussi tout un mouvement. Je suis basé à Rennes, donc il y a un regroupement de compagnies, qui c'est Compagnie du 35, qui s'est créé suite au premier confinement, justement, pour nous entreconnaître, mieux pouvoir nous regrouper, défendre les sujets communs, porter une parole de revendication.
C'est l'aspect positif, justement, de ces confinements et fermetures de salles de spectacle depuis mars dernier. Le spectacle Que du Bonheur est programmé, lui, aux Trois Éléphants. Si le festival a bien lieu, évidemment, on croise les doigts. Un mois de janvier sans une goutte d'alcool, et pourquoi pas? C'est l'occasion de faire le point sur sa consommation et de se rendre compte des conséquences qu'elle peut avoir. On parle du défi du mois de janvier sans alcool d'ici 4 minutes, juste après Falls Syrups. C'était Falls sur l'autre radio avec Syrups. Et vous écoutez évidemment l'agité du local. Vous l'avez peut-être déjà tenté vous-même, le défi de janvier. Moi sans alcool, aussi appelé en version anglaise le Dry January. Claire a interrogé deux professionnels de santé sur cette action et les conséquences d'une forte consommation d'alcool.
On va s'interroger aujourd'hui sur notre consommation d'alcool à l'occasion du Dry January, le mois de janvier sans alcool. C'est un concept anglais, vous l'avez compris, mais qui fait son chemin jusqu'en France. Pour expliquer tout ça, je suis avec la cadre du bol de santé du centre hospitalier de Laval et aussi chargée du pilotage de la stratégie des services d'addictologie au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addiction, le XAPA de la Mayenne. C'est Morgane Cinquin, bonjour.
Bonjour.
Et je suis aussi avec l'infirmier de l'équipe mobile du XAPA, Guillaume Landet. Bonjour.
Bonjour.
Alors justement, est-ce que, pour que le concept ait fait le trajet jusqu'en France, est-ce que c'est évident pour vous que ce soit jusqu'en France? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce problème?
Donc, oui, les problèmes d'alcool sont un enjeu de santé publique important en France, comme dans les pays anglo-saxons qui ont pu initier ce défi du mois de janvier. L'objectif de ce défi, c'est pas d'apporter des soins ou de soigner des problématiques addictives, c'est vraiment de permettre aux gens, sur ce mois de janvier, de se situer par rapport à leur consommation et de réfléchir sur leur rapport à l'alcool.
À l'histoire d'une démarche de santé publique, effectivement, c'est bien que chacun puisse se saisir de cette dimension et de se questionner. Donc c'est vraiment une notion d'ensemble de la population.
Oui, et vous disiez, Guillaume Landet, on disait un peu avant, qu'il y a 4 millions de personnes qui ont téléchargé l'application.
Qui ont déjà tenté effectivement ce défi via l'application TryDry qui est en ligne depuis 2013. Alors en France, le mouvement est assez récent, il a surtout pris de l'ampleur l'année dernière avec des campagnes de publicité. Sur le plan national, on n'a pas de visibilité nous, sur le nombre de participants aujourd'hui.
D'accord. Mais pour vous, il y a quand même une augmentation de participants par rapport à l'année dernière, par exemple ?
Oui, je pense, surtout dans le contexte actuel où après l'année éprouvante qu'on a passée, l'alcool a pu permettre de trouver un peu de réconfort et la modération sur ce mois de janvier devient un vrai défi. Dans les chiffres qu'on peut avoir, notamment sur l'augmentation de ses consommations pendant le confinement, c'est à peu près 51% des personnes qui reconnaissaient avoir majoré leur consommation.
Oui, donc c'est vraiment quelque chose en plus qui s'ancre dans l'actualité avec le fait que on soit isolé, donc on peut plus facilement consommer seul de son côté sans avoir quelqu'un qui va nous dire que c'est trop, par exemple, ou ce genre de choses.
Ben, disons qu'effectivement, avec la période de confinement, de couvre-feu, la consommation, le mode de consommation a pu changer. Elle est moins sociale, elle est plus, on va dire, individuelle au domicile et donc moins évaluable en plus.
Est-ce que vous avez plus de personnes qui vont vous appeler pour avoir de l'aide ou au contraire, ce sont des gens qui vont plus s'isoler ?
On a effectivement une augmentation des consommations chez les patients que l'on suit depuis la crise du Covid. Après, sur l'ensemble de la population, comme je vous disais, il y a effectivement des chiffres qui montrent une augmentation.
Donc pour vous, c'est important d'avoir ce défi de janvier ?
Oui, alors ce défi de janvier va pas forcément sur notre structure, en tout cas, c'est pas forcément sur ce défi qu'on va travailler avec nos patients. Nos patients, eux, sont déjà dans des problématiques bien bien ancrées et diagnostiquées, avec des consommations, des comorbidités importantes. Ce défi, je pense qu'il s'adresse avant tout aux personnes qui ont des consommations, on va dire, qui socialement sont très acceptables, mais qui veulent se questionner justement sur ce rapport à l'alcool.
C'est évaluer cette acceptabilité, effectivement. Est-ce que je suis dans une dimension de risque ou est-ce que je suis dans une dimension tolérable? Ce mois de janvier, ce défi de janvier permet de se tester individuellement, soit effectivement en se disant j'arrête pendant tout le mois et je vois si c'est un problème pour moi d'arrêter pendant tout le mois, ou tout simplement en allant sur différents sites, dont le site du XAPA 53, où il y a des tests avec des questionnaires, où on peut s'auto-évaluer sur la dimension de la consommation, de sa relation à la consommation, et où on a en direct le résultat de savoir si on est dans un comportement qui peut avoir des conséquences sur la santé, sur le sommeil, sur les conditions de vie en règle générale, ce dont on ne s'aperçoit pas forcément ou un peu tardivement quand on rentre dans un comportement addictif vis-à-vis de l'alcool.
Et justement, ce comportement addictif, est-ce qu'on peut peut-être un peu le décrire?
Alors, on peut pas, chiffrer une consommation problématique. Elle va dépendre juste du rapport de la personne avec l'alcool, à savoir à quel moment il n'a plus la liberté de s'empêcher de consommer. Donc effectivement, pour chacun, ça peut être, on peut être dépendant à l'alcool en consommant tous les jours, mais aussi on peut être dépendant à l'alcool de façon très contextuelle, c'est-à-dire ne pas pouvoir s'empêcher de consommer le week-end quand on voit ses amis, ne pas pouvoir s'empêcher de consommer avec ses collègues le soir en rentrant du travail. Donc elle a vraiment différentes facettes selon la personnalité de chacun.
D'accord, oui, donc au final, ça s'adresse à beaucoup de monde, plus qu'on ne le pense. Pas forcément des gens qui sont déjà dans des problèmes addictologiques.
Non, je dirais même que ce défi de mois de janvier s'adresse avant tout aux personnes qui n'ont pas eu de problème forcément de dépendance, de diagnostiquer ou en tout cas d'évaluer. L'idée, c'est vraiment que ce soit un défi, donc il y a quelque chose de très ludique derrière. L'idée, c'est d'offrir la possibilité sur ce mois de janvier, voilà, après une période de fête ou une période de confinement où l'alcool a pu prendre un autre sens et une autre importance, c'est juste de s'auto-tester finalement.
Et justement, ce test, qu'est-ce qu'il apporte comme bénéfice au niveau de l'organisme, mental? Alors, aussi, j'imagine.
Les bénéfices, heureusement, il y en a. Les différentes études montrent que tous les patients, en tout cas, qui ont pu réaliser ce test, mettent en avant un meilleur sommeil. Ça, c'est dit notamment à l'effet de l'alcool sur le sommeil paradoxal qui produit notamment les rêves. Donc, les gens retrouvent quelques rêves assez rapidement. Ça entraîne évidemment un regain d'énergie. On peut aussi, certains patients peuvent mettre aussi en avant une perte de poids, un meilleur teint et des capacités de concentration augmentées. En général, si vous voulez, les participants décrivent un meilleur état de santé général avec une influence positive sur le moral.
Et tout ça en un mois ou vraiment en arrêt?
En un mois, ouais. Alors, comme tout sevrage ou comme tout arrêt d'un produit psychotrope, les premiers jours, voilà, les bénéfices n'apparaissent pas les premiers jours. On peut même se retrouver les premiers jours avec des difficultés d'endormissement si l'alcool avait un rôle un peu sédatif ou anxiolytique le soir. Donc, il peut y avoir effectivement les premiers jours des petits signes qui peuvent être plus que désagréables, mais qui s'atténuent rapidement en 3 ou 4 jours.
Et sur ces signes désagréables et sur tout autre signe pendant cette période de défi, c'est possible de s'adresser aux équipes du XAPA qui sont là aussi pour, ou à tout professionnel de santé, qu'il soit du parcours de santé de la personne habituelle ou dans la question d'un lien avec un nouveau professionnel, c'est possible de questionner sur ces signes désagréables qui apparaissent lorsque l'arrêt intervient.
La totalité des participants n'ont pas ces signes, hein, heureusement.
Oui.
Ces signes, c'est juste une alerte finalement qui permet voilà, de se diriger vers un professionnel et de les évoquer.
Et en plus, le centre de soins et d'accompagnement, justement, c'est vous accompagner au jour le jour les personnes qui viennent vous voir avec ces problèmes-là?
Tout à fait, oui. Alors le XAPIN, qui fait partie du centre hospitalier, c'est un centre de consultation qui a plusieurs antennes à Laval, Mayenne, Château-Gontier, Segré et Front, et qui propose des consultations alors de médecins addictologues, de psychologues, d'infirmiers et d'éducateurs, justement pour les personnes qui se questionnent, qui sont dans un souhait de changer leur consommation ou au moins de pouvoir y réfléchir, ou même par rapport à leur entourage, toute personne qui souhaite avoir des informations ou des conseils peut se rendre sur le XAPIN pour rendez-vous.
Et est-ce que autrement qu'aller vers le XAPA, est-ce que nous, en tant que proches d'une personne qui souhaiterait arrêter, est-ce que vous avez des conseils pour, par exemple, aider à un manque de motivation à tenir pendant un mois, parce que ça peut paraître peut-être un peu long?
Dès l'instant qu'il y aura une difficulté à tenir sur un mois, on peut, sans parler de problématiques d'utilisme ou quoi que ce soit, mais on peut voilà, questionner quand même son rapport à l'alcool. Donc effectivement, l'idée, ce sera toujours, en tout cas, de l'inviter peut-être à en parler avec un professionnel. Après, voilà, ça peut aussi renvoyer à un questionnement qui peut être difficile à accepter hein, pour ces personnes qui peuvent avoir des consommations problématiques. Donc, effectivement, être proche n'est pas toujours plus facile pour conseiller. L'idée, c'est vraiment d'avoir du soutien, un appui professionnel.
Est-ce que vous avez peut-être des exemples de personnes qui, grâce à ce défi, ou en tout cas grâce à ce recul sur cette consommation, ne boivent plus, ou ont arrêté, ou ont réduit leur consommation?
L'idée vraiment de ce défi, c'est pas de travailler l'abstinence. Hein. On n'est pas sur des patients qui vont avoir des graves problématiques comme nous on peut avoir sur les XAPA. Pour la simple et bonne raison qu'un sevrage alcool ne peut pas se faire sans aide médicale s'il y a une dépendance physique marquée. Donc on va vraiment être sur un public qui ne fait pas partie de notre file active. Donc par rapport à ça, nous on a peu de recul. Généralement, les gens qui vont s'inscrire sur ce défi, ça va souvent être des gens qui, un groupe d'amis, enfin un groupe de collègues. Voilà, l'idée, c'est vraiment de rendre quelque chose de ludique. Et donc, on va pas nous avoir accès à ces résultats-là. Ceux qu'on va venir, qui vont venir nous voir pendant ce mois de défi, ce sera les personnes qui auront mis en évidence une problématique alcool.
L'an dernier, effectivement, il y avait eu quelques prises de contact du fait du défi. Et sur la question des proches, effectivement, c'est pas toujours facile d'être un proche et de constater une difficulté dans l'arrêt. Et s'il y a une difficulté dans l'arrêt, comme le disait très bien Guillaume Landais, c'est que là, il y a besoin d'un soutien d'un spécialiste. Et le XAPA peut aussi être un soutien pour les proches. On peut effectivement être sollicité quand l'arrêt devient compliqué. Okay. Donc, comme cela a très bien été évoqué, le défi de janvier, pour la plupart des gens, ça n'est pas une difficulté, c'est une manière de se situer. Si ça devait devenir une difficulté, si la difficulté apparaît à ce moment-là, effectivement, c'est important de pouvoir se faire appuyer par un professionnel, soit parce qu'on est directement concerné, soit parce qu'on est un proche.
Ce qu'on peut, en tout cas, c'est inviter les personnes qui souhaitent tenter ce défi de se rendre sur le site, notamment du Dry January ou d'autres sites, qui peuvent en tout cas les accompagner, leur proposer aussi des outils pour les aider. Après, dans tous les cas, c'est une démarche personnelle, et on peut juste donner quelques conseils. L'idée, c'est de rendre ce que je vous disais, ce défi assez ludique, donc essayer peut-être de constituer une équipe d'amis, de collègues motivés. Le facteur collectif est primordial. Il va falloir évidemment réfléchir sur sa consommation et donc ça, se poser les questions. Est-ce qu'on boit relativement peu, mais est-ce qu'on peut dire non? Est-ce qu'on aime simplement prendre un verre de temps en temps, ou est-ce qu'on pense avoir une consommation trop importante? Donc c'est important d'énumérer tous ces moments où l'alcool est présent et d'évaluer un petit peu sa consommation. Après, il va falloir aussi accepter d'anticiper des craintes, savoir notamment, c'est pas évident toujours, de refuser un verre, de pouvoir accepter d'aller voir tout le monde sans avoir l'alcool comme lien social. Il faudra aussi dépasser cette peur du jugement que certains peuvent avoir de dire non à l'alcool devant d'autres personnes, d'autres collègues, d'autres amis, d'avoir peur de devenir ennuyeux notamment, ou de ne pas être compris dans sa démarche. Et comme on a évoqué tout à l'heure, il faut se préparer aussi à renvoyer aux autres un questionnement sur leur propre consommation et accepter leur réticence à y être confronté.
Tout ça, tous ces renseignements précieux, toutes ces pistes précieuses, donc c'est rappelé sur le hashtag le défi de janvier, et c'est aussi des questionnaires qu'on peut retrouver sur le site du XAPA quand il y a une difficulté plus importante. Quand la difficulté plus importante arrive, on a un certain nombre de questionnaires qui permettent de se situer soit dans sa consommation, soit vers qui s'adresser pour répondre à ces questions. Bah, l'idée, c'est vraiment d'encourager un maximum de monde à le faire. Tu l'as très bien dit.
Et moi, j'insiste sur le côté ludique, en fait, où vraiment, il faut que ce soit un jeu, un test. Et peut-être pas le faire tout seul. Le faire tout seul, c'est effectivement peut-être plus difficile. Une phrase, une citation que j'utilise souvent, nous, c'est quand on devient sobre, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre à s'aimer. Donc c'est tout l'intérêt aussi, l'enjeu de ce mois de janvier, c'est de pouvoir fonctionner sans alcool. L'alcool, des fois, vient servir un peu de béquille, ou en tout cas, même masquer certaines, intimités ou autres. Et donc, c'est vraiment s'accepter soi-même sur ce mois-ci, de ne pas avoir besoin de l'alcool, en tout cas, pour être quelqu'un d'autre. C'est prendre soin de soi pendant un mois.
Si vous êtes intéressé par le défi, il n'est jamais trop tard. Pour le commencer, rendez-vous sur le site du XAPA, donc www.csapa53.fr, où vous pouvez trouver plein de conseils ainsi que des tests pour vous questionner sur vos consommations. Vous pouvez aussi appeler le centre de Laval au 02 43 26 88 60 et vous pouvez vous rendre aussi sur le site du défi de janvier Dry January.
Merci Claire, c'est bien noté. On revient d'ici quelques minutes, juste après Age Burns, avec leur chanson Radar.
Try and
Vous êtes toujours sur l'autre radio à écouter l'Agité du local. Et comme tous les lundis, Emily Rangeau vous propose sa chronique, un ou plusieurs coups de cœur, aujourd'hui en littérature jeunesse avec Fanny.
Emily Rangeau, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour, l'autre radio. Aujourd'hui, je vous présente un album sans texte. Alors, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur l'autre radio parce que j'aime beaucoup les albums sans texte, quand ils sont réussis, bien sûr. Par expérience, je sais que les adultes sont un petit peu sceptiques parce qu'ils sont démunis quand ils présentent un album sans texte à un enfant parce qu'ils ne savent pas comment le lui lire. Mais en réalité, vous mettez un album sans texte entre les mains d'un enfant et lui, il se débrouille très bien avec ça. C'est super, il se raconte lui-même l'histoire. Et c'est le cas ici avec Classe sous-marine aux éditions Pastel. C'est le deuxième album de John R. ou R, je ne sais pas comment ça se prononce. Et c'est toujours la même petite classe de primaire qui part en voyage scolaire. Alors on les avait découverts quand ils allaient sur la Lune, dans Classe de Lune, et maintenant nous avons Classe sous-marine. Donc ils embarquent dans un sous-marin et on va suivre un petit peu leur voyage. Et surtout, on va suivre l'un des petits élèves qu'on a déjà connu la dernière fois, qui est un petit peu plus rêveur que les autres, un petit peu plus curieux. Et une fois de plus, il se laisse distancier et pour prendre des photos, pour aller fouiller à droite et à gauche. Et évidemment, il reste dans son coin alors que la classe repart. Alors on pourrait croire qu'il est pris de panique et qu'il s'affole, mais pas du tout, il en profite, il continue d'explorer, il se retrouve tout seul sous l'eau. Et il va vivre tout un tas d'aventures, il va découvrir des petites créatures qui ne lui font pas peur, hein, avec lesquelles il s'amuse. Il va continuer à prendre des photos, il va se trouver nez à nez avec un énorme poisson rouge qui pourrait être effrayant, mais en fait lui, il prend ça très bien, ils deviennent copains. Et il y a des petits passages très drôles où il se fait prendre en photo par cet immense poisson rouge. C'est vraiment... Il y a plein de choses qui se passent. C'est très joli. J'aime beaucoup ce dessin tout en rondeur. Et puis, ce sont les fonds marins avec leurs surprises, leurs dangers. Et finalement, vous vous doutez bien que le petit garçon est récupéré par l'instituteur qui s'est tout à coup rendu compte qu'il lui manquait un élève. Donc, tout se termine bien. À la fin, on voit toutes les photos qu'il a prises. Et c'est un album qui se lit sans se lire avec le sourire. C'est Classe sous-marine à partir de 3-4 ans. C'est aux éditions Pastel, écrit et illustré par John Eyre. Ou R. Eh ben bonne année! Plein de bonnes choses pour 2021. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien.
Retrouvez M. Lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, ou... et sur l'autre radio.
Merci Fanny, et donc à retrouver évidemment cette chronique sur l'autreradio.fr. On termine cette émission avec notre habituelle rubrique initiative, Claire. Et les soignants du centre hospitalier de Laval ont une bonne surprise.
Et oui, ils ont reçu vendredi dernier des galettes des rois. Elles ont été confectionnées par les premières années de brevet professionnel de boulangerie de l'Université régionale des métiers et de l'artisanat de Mayenne. Un cadeau pour remercier le personnel soignant pour leur mobilisation depuis le début de la crise sanitaire. Pour Michel Goujon, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Mayenne, il envisage, je cite, de poursuivre cette opération dans les années à venir pour leur assurer toute notre gratitude.
Et puis une jolie façon de découvrir ou de redécouvrir la région de la Mayenne.
C'est ce que nous propose l'artiste Cabochard, originaire de Saint-Georges-Butavant, avec sa dernière chanson, Invitation en Mayenne. Pendant le deuxième confinement, l'intermittent du spectacle s'est remis à l'écriture et à la composition. Et il s'associe avec Christian Terrier, originaire d'Ernée, pour réaliser la vidéo, une œuvre qui nous propose de voir Mayenne, lasser les châteaux, Fontaine, Daniel, Sainte-Suzanne, Laval et Château-Gontier sur une bande-son d'accordéon et de guitare, le tout avec les rimes de l'artiste, comme avec « Loin des grandes villes, je vis ici tranquille ». La vidéo est donc à écouter et à voir sur YouTube en tapant « Cabochard, invitation ».
Mais merci Claire, ça nous donne déjà un aperçu, en tout cas un petit peu, de ce que peut donner cette chanson. Nous sommes nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, nom du compte évidemment L'Autre Radio. Et si vous voulez nous transmettre vos initiatives, une idée, un message, que sais-je, n'hésitez pas à laisser un message sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. C'est déjà la fin de notre émission L'AJT du local, c'est fini pour aujourd'hui pour cette édition du 18 janvier. À suivre sur notre antenne à 19h Solénoïd, suivi à 20h de la discothèque de Morgane. Et puis nous, on se retrouve demain à 12h15. Très bonne journée à tous.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'AJT du local.